Ouais, les élèves virtuels. Les élèves non virtuels non plus, mais voilà. Participants non présents.
Comme c'est pas des avatars, c'est bon.
Il y en a d'autres. Il y en a là dans la l'armoire du coin. Ben, il y a toute la série du Mara. C'est Netzach Israël, Pelé Kalef. On va commencer dans une seconde. Alors, c'est page 49, même tête. Encore 1 minute et on commence. Ils sont là, sont là. Ok, on va commencer. Ok,
OK.
d'accord. La semaine dernière, on avait vu qu'en fait, le monde, il a un point de départ. Et ce point de départ, c'est en fait, c'est la totalité de la création, mais il ne se suffit pas à lui-même. Il peut pas se réaliser lui-même. C'est ce point-là, cette singularité-là, c'est le réchit. C'est le réchit. Et c'est par ça. C'est par le réchit que le monde il est commencé. Donc en fait, comme ça, on répond à la question fondamentale. Comment se fait-il qu'il y ait la multiplicité dans le monde alors que Dieu est unique? Comment est-ce que la multiplicité du monde elle est compatible avec l'unicité de Dieu? La réponse de Maharal, c'est de dire en fait non, dans le monde, il n'y a qu'une seule chose. Cette chose-là, elle s'appelle le réchit. Bonsoir. Oui, c'est parfait. Vous êtes pile en retard. D'accord. Alors, l'idée, elle est comme ça. Voilà, voilà. On reprend un petit peu en arrière pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. En gros, la question qu'on a posée la semaine dernière, c'est la question suivante. C'est que Dieu, c'est Hachem Echad. Dieu, il y a, c'est pas juste qu'il y a un seul Dieu, c'est qu'il est unique, il est uni. Il y a rien qui c'est il y a pas de multiplicité chez Dieu. Dieu, c'est un. Et il a créé un monde où il y a tellement de choses. Ça va dans tous les sens. Les hommes vont dans tous les sens, la nature va dans tous les sens, les idées vont dans tous les sens. Et comment est-ce que ces deux choses sont compatibles? Que le créateur, c'est un créateur, que toute ça, son essence, c'est Ardout, Ardout Hashem, c'est une mitzvah de la Torah. Et dans le monde, on regarde, on cherche la Ardout et on la voit pas. Et donc le Maharal, il propose comme réponse la réponse suivante, c'est qu'en fait au début, il a créé une chose. Et cette chose-là, elle s'appelle le réchit. Béréchit. Pas, ouais. Et ce réchit, c'est une seule chose. Mais le problème, c'est que, pardon, moi, j'existe. Par exemple, prends moi. Dieu, il m'a créé. Il m'a créé. Mais moi, j'existe parce que Dieu, il m'a donné la vie. Donc, en fait, je ne suis pas vraiment vivant. Je suis vivant. Dieu, il est vivant parce qu'il est vivant. Moi, je suis vivant parce que Dieu me donne la vie. Donc, même qu'il m'a créé, mais je suis pas encore parfait, je suis pas encore complet. Donc il faut qu'il me donne la vie. Donc il faut encore rajouter des choses. Le fait qu'il m'a créé, ça suffit pas. Il m'a créé, mais après il continue à me donner la vie. Donc de la même manière, Dieu il a créé le monde et après il a créé cette chose-là, ce réchit. Mais ce réchit, il peut pas survivre. Donc il peut pas s'accomplir. Et donc il faut lui rajouter des choses, un peu comme Dieu il crée le monde sans aucun aide. Mais moi, si je veux donner la vie, j'ai besoin hein, de l'aide d'une épouse. Donc, en fait, Dieu, il a créé une seule chose qui s'appelle le réchit. Et ce réchit, il fallait le compléter. Parce que ça, c'est la nature des choses créées. Et même si Dieu crée quelque chose, cette chose-là n'est pas parfaite. Donc, il faut compléter. Mais il n'y a pas plein de choses. Et c'est quoi le réchit? Le réchit, c'est la Torah. Et le réchit, c'est Israël. C'est la même chose. Ouais, Israël, Voraïta, Vekutcha, Brichu, Chadem. Ouais, donc ça, c'était ça l'idée qu'on a parlé en long, en large et à travers la semaine dernière. Maintenant, on va prendre le début du sujet de cette semaine. Si vous voulez, vous pouvez prendre le mien, moi je l'ai sur l'écran. Voilà, j'aurais besoin des notes de temps en temps. D'accord. D'accord, bon, comme vous voulez. Alors, ça, c'était les deux aspects, les deux branches qu'on avait explorées la semaine dernière. Juste, vous m'entendez bien? Sur...
Oui, très bien. Ouais.
D'accord. Alors ça, c'était les deux. Ce qu'on avait exploré la semaine dernière, c'est le fait que la Torah, ce soit le réchit, le fait que Israël, c'est le réchit. Mais Rashi, qui est ramené au début du Chumash, il ramène un Midrash qui dit encore trois autres choses. Ces trois choses qui sont le réchit. Maintenant, si on regarde un peu, le Midrash, il est comme ça. Le Midrash, il dit la chose suivante. Bisrut Gimel Dvarim Ivra Olam, Bisrut Bikurim, Bisrut Maasrot ou Bisrut Chala. Il y a trois choses par le mérite duquel le monde il a été créé. Et c'est quoi ces trois choses-là? Alors nous dit-on, c'est les bikurim. Les bikurim, on sait ce que c'est les fruits qu'on doit amener, les premiers fruits à avoir mûri. Les maasrot, c'est les 10% qu'on doit donner au Lévi, etc. Et la challah, c'est Réchit Arisotéchem, puisque les trois, on les appelle Réchit. Donc quand il y a marqué Béréchit, c'est grâce au parler, parce qu'il s'appelle Réchit, ces trois choses-là. Alors, il dit, mais il y a encore un autre chose qu'on appelle Réchit. C'est la Trouma, c'est Réchit. La Trouma aussi, elle s'appelle Réchit. La Trouma aussi, elle s'appelle Réchit. Donc pourquoi est-ce que ça, on ne l'a pas mentionné? Ouais, Réchit de Ganra, ouais, Réchit de Ganra Titeno, le début du blé, il faudra donner au Cohen. Donc ici, on a mentionné les Maasrot, mais on n'a pas mentionné la Trouma, bien que la Trouma aussi, elle s'appelle Réchit. Alors en fait, il dit que bien que la Trouma aussi, elle s'appelle Réchit, mais Bikurim, Maasrot et Challah, ils ont quelque chose de particulier. Parce que Bikurim, c'est Milashon Bechor. Bechor, c'est le premier. C'est le premier. Ça veut dire que on a un arbre et cet arbre il donne naissance à des fruits et les premiers fruits qui est complété, qui devient, qui a été complété, ça c'est le Béchor et c'est un point de départ. C'est un point de départ, c'est-à-dire que j'ai l'arbre et j'ai le premier fruit qui a mûri. Donc c'est comme un Béchor, c'est comme quand quelqu'un il a un enfant, cet enfant c'est le Béchor. Donc ici on a vraiment cette idée du point de départ, du Réchit. Le Bikurim, c'est le point de départ de la récolte de cette année. Et ça, c'est un point de départ. Maintenant, il y a un deuxième point de départ. Donc là, on parle d'un point de vue agriculturel, quand il y a la production des fruits. Donc, on a un point de départ, c'est quand j'ai un fruit qui est mûr. Maintenant, après, j'ai plein de fruits qui vont mourir, qui vont mûrir. Je ne sais pas ce que j'ai ce soir. J'ai plein de fruits qui vont mûrir. Et après, à la fin, je vais tous les récolter. Je vais tous les mettre en tas. Et une fois qu'ils sont en tas, alors là, il y a un point de départ. C'est qu'on a fini la production et on commence l'exploitation. La mise en tas, c'est la fin de la production et c'est le début de l'exploitation. Et c'est un deuxième point de départ. Et la challah, c'est quand on commence une nouvelle chose, c'est que maintenant on passe à la consommation. C'est quand on a fait une pâte. Donc c'est un troisième point de départ. Ouais. Et si on regarde, il y a encore autre chose qui est intéressant, il y a encore un autre aspect qui est intéressant. C'est que les bikurim, c'est un seul fruit. Donc, c'est quelque chose qui est unique. C'est quelque chose qui est unique et qui est isolé. Et à tel point qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on voit le premier fruit qui a mûri? On attache un fil autour de lui pour le reconnaître, pour dire ce fruit-là, il est particulier. Il est distinct des autres. Maaser, à quel moment on est chayav de Maaser? Quand on met tout en tas. Voilà. Quand on met tout en tas, ça c'est le moment où on devient chayav de Maaser. Donc c'est un moment où en fait, on prend des choses, on les met en commun, et quand elles sont absolument en commun, c'est à ce moment-là qu'on est chayav de Maaser. Donc il y a déjà un mélange, il y a déjà une association qui se fait. Et la challah, c'est encore un troisième degré. C'est que non seulement on les a associés ensemble, mais ça fait une pâte. C'est-à-dire qu'en fait, tous les éléments disparates, ils ont été unis en un seul corps. Donc on a trois étapes. On a l'objet distinct et isolé. On a l'association d'objets comme dans le kéri, le tas. On a mis tous les grains de blé et on les met en tas, mais ils sont pas encore collés. Ils ont juste été rassemblés. Il y a une troisième étape, c'est quoi? C'est la pâte où à ce moment-là, on a vraiment tout réuni en un seul corps. Alors, c'est ce qu'on est en train justement de... Donc, il avait posé cette question. Donc, maintenant, il dit, avant de répondre à cette question, faut qu'on clarifie, en fait, qu'est-ce que ces mitzvot, elles ont de particulier. Et donc, ça nous permettra de comprendre pourquoi est-ce que la Trouma en est exclue. Et il dit, quand on regarde la Bria, la création, c'est un peu la même chose. La première chose qui ont été créées, c'est les Malachim. La première chose qui ont été créées, c'est les Malachim. Et les Malachim, on sait, ça s'est déjà marqué dans le Rambam, que chaque Malach, il est absolument isolé. On ne peut pas compter les Malachim. On peut pas dire il y a 10 malachim parce que chaque malach il est complètement seul. Il est complètement seul, il est complètement isolé, on peut pas l'associer à un autre malach. Ouais. Donc ça c'est le début. Le début de la bria, c'était des choses qui étaient complètement isolées. Même au niveau des idées, quand les idées elles sont pures, elles se mélangent pas. Il y a la pureté, il y a la kdusha, il y a la tahara, etc., etc. C'est des idées qui se mélangent pas. Après Dieu, il a créé, une fois qu'il a créé ça, il a créé des créations qui se rassemblent. Qui se rassemblent, par exemple. Une seconde. Ça veut dire qu'en fait, et même à un certain niveau, il est sorti, pardon. Une seconde. Une seconde. À un certain niveau, dans les Rishonim, on parlait des quatre Yesodot. Les quatre Yesodot, c'est qu'en fait, c'est les quatre éléments de base de la création qui ont été créés de manière isolée. Ouais, c'est le feu, la terre, l'eau, le vent et le feu. Et donc, même si on ne comprend pas ça de manière directe, mais en tout cas, les éléments de base, ils ont été créés de manière isolée. Les matières premières, même, on pourrait parler des atomes. Ouais, les atomes, on peut imaginer qu'ils ont été créés de manière isolée. Chaque matière, elle est en isolation. Après, quand on regarde, ça se développe un peu plus, on a commencé à les rassembler les uns à côté des autres. Comme ça dit-il. Ça dit le Maharal. On ne va pas trop se développer là-dessus. Et en fin de compte, on a des corps qui sont des corps qui sont mélangés. Par exemple, on a des molécules. Les molécules, c'est quoi? La molécule de base, vous connaissez l'eau, c'est H2O. Donc, on a mélangé des choses ensemble et on les a fusionnées en un seul corps. Donc, si on regarde, il y a trois étapes, il y a trois développements de la création. Il y a la première qui est complètement isolée. Une seconde. Une seconde. À quel moment on va être des... Une seconde. Je ne l'ai pas accepté. Si, si, je l'ai fait, je l'ai fait. Une seconde. On va quand même se connecter. D'accord, excusez-moi, on va reprendre. Donc, en gros, il y a le point de départ, c'est des éléments, ouais, des éléments élémentaires, comme de juste, qui sont complètement isolés. Après, ils se rapprochent les uns des autres. Ils sont comme collés aux autres, donc il y a un mélange, mais il n'y a pas encore une fusion. Et le troisième niveau, c'est qu'on a vraiment à proprement parler une fusion. Et donc il y a trois niveaux, il y a trois niveaux dans la création. Il y a un développement, trois étapes. C'est ce qu'on appelle l'isolation. Après, on a ce que le Maharal appelle Arkava Shichnit, Milashon Shachen. Il y a une proximité, comme des voisins. Qui sont proches les uns des autres. Et il y a un dernier niveau, c'est vraiment le mizouk, c'est le mélange, comme quand on mélange de l'eau et du vin, que là, on ne peut plus reconnaître, il n'y a aucun moyen de distinguer, il y a une fusion. Et chacune de ces mitzvot-là, dit le Maharal, chacun il a ça, il a son shiur. Bikurim, c'est quand je vois une figue. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le point de départ de tout. C'est comme le premier moment, le moment zéro de la création, c'est les bikurim, que là, j'ai quelque chose qui n'existait pas, qui a été créé quelque part de nouveau. Et donc, je vois une figue et je la marque, je mets un fil et puis c'est tout. Et cette chose-là, c'est Bikurim. Et maintenant, que mon arbre, il ait fait 500, il ait fait 50 kilos de pommes ou qu'il ait fait une pomme, enfin, qu'il ait fait une date, ouais, s'il a fait une date, cette date-là, je l'amènerai en Bikurim. Il ne me restera rien, mais cette date-là, je l'amènerai en Bikurim. Pourquoi? Parce que c'est comme on a dit, c'est l'instant. Zéro, c'est la création, c'est l'élément premier. Après, pourquoi? Parce que justement, il n'a rien en commun. Et pourquoi est-ce qu'on l'isole? Parce qu'il n'a rien en commun avec tous les autres fruits. Parce que lui, c'est le point de départ, c'est le réchit, et les autres ne le sont pas. Et donc, on a dit, on le prend tout seul, on prend chaque fruit tout seul. Mais le maaser, c'est un dixième. Pourquoi? Parce que quand on regarde la bria, elle est sous le signe. Yoni, ton micro, il est allumé. Je ne sais pas si c'est intentionnel.
Non, je
D'accord.
le coupe.
Merci. Si tu as une question, bien sûr, tu peux le rouvrir, il n'y a pas de problème. Donc,
Oui, j'avais pas vu.
le maaser, c'est un dixième. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde l'union, notre manière de compter, elle se fait jusqu'à 10. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à 9, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le 10, en fait, c'est quoi? C'est un décalé. D'un point de vue mathématique, c'est 1, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tout pris ce qu'il y avait avant et on l'a mis dans un grand sac et on a mis un 1 et un 0 pour dire qu'en fait, tout ce qu'il y avait avant, ça s'est rassemblé. Donc jusqu'à 9, c'est des individus. 10, c'est un groupe. C'est pour ça que toujours un minyan, c'est 10 personnes. Pourquoi? Parce que 10, on est sorti de l'individu pour aller. Il y a un rassemblement. Il y a un rassemblement. Et donc, quand il y a le maaser, ouais, alors, on dit, là-dedans, on va en prendre un dixième pour signifier justement que cette union, elle se fait sur le trait du 10. Justement, que ça veut dire qu'on va prendre, j'ai 9 pommes, je vais marquer 9 pommes, parce que c'est 9 pommes qui sont disparates. Quand j'ai une dixième pomme, je vais pouvoir tout rassembler ça, je vais mettre un 1, et je vais le décaler d'un cran, je vais le décaler d'un rang. Parce que justement, on a rassemblé tout ça dans un seul groupe. Bien sûr, il n'y a pas encore une union, mais on les a rassemblés d'un point de vue mathématique, on dirait que c'est un ensemble. C'est un ensemble. Ouais. Et ça, c'est un mélange, mais qui est un mélange où il n'y a pas de fusion, c'est juste une proximité. Seconde. Mais dit-on, la mitzvah de Challah, c'est pas comme ça. Parce que la mitzvah de Challah, c'est une nouvelle étape. C'est que maintenant, on va prendre toute la bria et on va tout ce qu'il y avait et on le fusionne. Ouais. Et donc, c'est une dernière étape. C'est-à-dire qu'on a l'unique, on a l'unique, on a les multiples qui sont rassemblés, on a l'ensemble et on a non pas l'unique, mais on a l'uni. On a uni toutes les choses. Donc, c'est trois étapes. C'est trois étapes successives. Ouais. Et donc, en fait, si on veut, on passe de l'unique vers le multiple, et du multiple, on revient à une forme de hardout. Donc, on a un début, on a quelque part un milieu, et on a quelque part une fin. Et c'est pour ça que dans la création, on a trois étapes, et dans les mitzvot qui ont trait à l'agriculture, on a trois étapes. On a Bikurim, Maaser et Challah. Et donc, si on réfléchit, en fait, c'est trois réchites parce que c'est trois points de départ, c'est trois raisons de la création, c'est trois manières d'être de la création. Avant, on parlait quand on dit que Bisrout à Torah, ça veut dire que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé Israël, il a créé la Torah. Mais là, on dit, c'est sous quelle modalité que le monde, il existe? Comment le monde, il peut exister? Le monde, il peut exister à trois niveaux. C'est ça qu'on va développer, en fait. C'est qu'il y a le pourquoi, et ça on avait parlé la semaine dernière, que c'est Bishvil la Torah, Bishvil Israël. Et là on va parler d'une autre question. C'est pas pourquoi le monde il existe, mais par quel moyen le monde il existe. Sous quelle forme le monde il existe. Et si on regarde, dit le Maharal, il y a trois niveaux de la Bria. Il y a trois. Il y a le monde, en fait on dit le monde. Mais, dit le Maharal, il y a trois mondes. Il y a un monde qu'il appelle le monde des pures idées. Il y a les mondes des pures idées, où chaque idée, elle est indépendante. Quand on réfléchit, l'idée de la sainteté et l'idée du repos, c'est deux idées qui sont complètement distinctes. Elles n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Les idées, elles sont très isolées. Les idées, elles sont très isolées. Et chacune est absolument à sa place. Après, quand on descend un peu plus, quand on parle au niveau de la parole, dans la parole, les idées, elles commencent à se croiser, elles se rencontrent. Les idées se rencontrent. Ça, c'est le monde du milieu. Il n'a pas expliqué ça, le Maharal, mais je rajoute qu'on est passé de l'idée au monde de la parole. Et dans le monde de la parole, les idées, elles commencent à se mélanger. Pourquoi? Mais ce n'est pas qu'on les a fusionnées. C'est que les idées, elles deviennent voisines. Ouais. On va parler de Shabbat Kodesh et de Menucha. Shabbat Kodesh et Yom Menucha, et c'est Shabbat Kodesh. Donc les idées, elles commencent, non pas encore à fusionner, mais elles commencent à se rencontrer. Et donc ça ressemble à ce qu'on a dit au tas de récoltes où on a tout mis ensemble. Donc il y a un chibour, il y a un chibour, mais il n'y a pas. Donc il y a un rassemblement, mais pas plus que ça. Ouais. Et à l'époque, le Maharal ne rentre pas tellement dedans, mais il dit que ça correspond dans la philosophie grecque, ça correspond au monde des Galgalim. Parce qu'à l'époque, si on reprend la cosmologie grecque, on pensait que ce qui faisait tourner. Ce qui faisait vivre le monde entier, c'était les Galgalim, ce qui est au-dessus de notre monde. ce qui est au-dessus de notre monde. Et donc le Maharal, il va se servir de concepts de philosophie grecque pour développer en fait des concepts qui sont des concepts de Kabbalah que nous on appelle les sphirotes. Ouais. Et les sphirotes. Et donc quand on regarde la création, ça c'est le Maharal utilise un langage de philosophie, mais on pourra utiliser un langage. Voilà, c'est le langage qu'on utilise quand on parle des. Quand on parle par exemple dans Sfirat HaOmer, quand on regarde, on a 7 degrés, mais en fait il y en a 10. Ou bien quand le matin, quand on dit Patach Eliyahu HaNavi, on en parle aussi. C'est quelle page on a Patach Eliyahu, le Sfirat HaOmer? Ouais, 5, 7. D'accord. Alors, quand je regarde par exemple dans le Patach Eliyahu, le premier jour de Nissan, on parle de Chesed chez Bechesed. Ouais. Après, on a Gvura chez Bechesed, etc., etc. L'idée, elle est que le monde, il est composé, depuis la volonté de Dieu pur jusqu'à notre monde, il y a 10 étapes. Et la volonté de Dieu, elle va prendre 10 formes différentes, 10 aspects différents, et que chacun de ces aspects, il va impacter notre monde différemment. Et il y a comme une échelle, Soulam, Mutsav Artsav et Rosh HaMageh HaShamayim, si on reprend le machal de Yaakov. Et donc, le monde du milieu, il y a la pure volonté de Dieu qui est au-dessus de tout. Et puis, il y a le monde où ces idées-là, elles commencent à se réaliser. À l'époque des Grecs, on parlait des galgalim. Pourquoi? C'était quoi? C'était des roues qui faisaient tourner les étoiles. Comme ça, les Grecs, ils pensaient qu'il y avait des grandes roues, des gigantesques roues pensantes, conscientes, qui faisaient tourner les étoiles et qui, en fait, faisaient vivre le monde. Ouais. Quoi? Oui. Mais en fait, bien que toutes ces étoiles, elles fonctionnent ensemble, tous ces roues fonctionnent ensemble, ouais, mais elles sont individuelles. On a 10 roues individuelles qui fonctionnent ensemble. Ça, c'est les termes de la. Encore une fois, c'est les termes de la philosophie grecque antique. En ce qui nous concerne, on va dire que les 10 principes par lequel Dieu dirige le monde, ils gouvernent ensemble. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, c'est connu que Rosh Hashanah, c'est un jour de rigueur, c'est un jour de dîn. Mais la modalité de ce dîn, c'est la miséricorde. C'est-à-dire qu'on est devant un juge, mais les paramètres avec lesquels il va nous juger, c'est des paramètres miséricordieux. Ça veut dire qu'on a une rencontre de deux concepts. Ou bien on a parlé, il y a Shabbat. C'est un jour de repos et un jour de sainteté. Il y a une rencontre de différents principes qui vont pas encore fusionner, mais qui vont se rencontrer. Et ça correspond aussi au langage. Le langage, c'est là où des idées, elles se rencontrent. Dans ma tête, dans la tête, d'un point de vue de l'idée, elle est isolée. Quand on parle, on va faire se rencontrer des idées. Et en fin de compte, quand on va arriver dans notre monde, les atomes fusionnent, c'est-à-dire qu'on va avoir des atomes de différents matériaux qui vont fusionner pour former une seule molécule. On a les idées qui fusionnent aussi, pas seulement la matière, mais les idées, elles fusionnent. Qu'en fait, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de principes, et quand je vais agir dans mon action, il y aura plusieurs de ces idées qui vont se répercuter. Que quand je me repose Shabbat, il y a le concept de repos qui est inclus, qui a été intégré dans mon action. Il y a le concept de sainteté qui a été intégré dans mon action. Il y a le concept de Emouna. Donc, il y a plein de concepts qui vont être rassemblés par une seule action. C'est-à-dire que quand je pense le repos et la Kedusha, c'est deux choses différentes. Je parle du Shabbat, je parle de deux choses en même temps. Quand je me repose, je les ai intégrées dans une seule action. Ouais. Et au niveau de la vie aussi. Au niveau de la vie, il y a ce concept de vayou les bassar echad, que les gens ils s'unissent mamash, et que comme ça donne naissance à une nouvelle vie. Mais là, on est dans l'action, on n'est plus dans l'idée. Dans l'idée, il y a un homme et il y a une femme. Dans les faits, il y a quelque chose de plus profond. Et ça, c'est. Donc en fait, c'est ça qui dit le Maharal, c'est que le monde, il existe sous trois modes. Il y a trois modalités d'existence dans le monde. Il y a trois niveaux d'existence. Et ce qui permet à chacun de ces niveaux d'existence d'exister, c'est la mitzvah. Chaque mitzvah, elle permet à cette chose-là d'exister. Voilà, vous comprenez ce que je voulais dire? C'est-à-dire que quand je fais les bikurim, alors je dis à Dieu, c'est de toi que vient, je ramène, je dis, de toi Dieu vient, Le point de départ de tout, ce qui est le début de chaque chose, les éléments, les atomes, les idées, ce qui est le point de départ de tout, vu individuellement, ça vient de toi. Quand j'ai le maaser, c'est que je regarde le monde et je dis, oui, mais maintenant, toutes ces idées, elles sont rassemblées ensemble. Ce rassemblement, ce fait que ces choses-là, elles coexistent ensemble, c'est toi, Dieu, qui le fais. Donc, je ramène à Dieu, j'accorde à Dieu l'existence de ce monde-là. Quand après, j'en ai là, je dis, le monde réel, par qui il existe, c'est qui fait que le monde réel, il existe? C'est Dieu. Donc en fait, quand je fais ces trois mitzvot-là, je ramène à Dieu et je reconnais à Dieu la totalité de l'existence. Et c'est grâce à chacune de ces mitzvot que chacun de ces niveaux d'existence, il peut survivre. Le monde, il ne peut pas vivre sans Dieu. Et comment je fais que Dieu il soit dans le monde? Grâce à ces mitzvot-là. Ces mitzvot-là, elles font rentrer Dieu dans le monde. Mais en fait, dit le Maharal, il y a trois mondes, il y a trois niveaux. Il y a trois étapes et elles existent ensemble. Quand je me repose Shabbat, il y a trois choses. Il y a l'idée de la Kdusha, l'idée de la Menoucha, l'idée de la, voilà, ces idées-là. Après, je fais le Kiddush et je dis toutes ces choses-là dans le Kiddush. Ouais. Et donc, je les rassemble ensemble. Et après, je me repose. Et donc, en même temps, il y a trois niveaux d'existence. Il y a l'idée, il y a la parole et il y a l'action. Il y a ce qui est isolé, ce qui est rassemblé, ce qui est uni. Et donc, de quel droit ça existe? Parce que quand je fais ces mitzvot-là, je reconnais que tout vient de Dieu. Ouais. Et donc, c'est ça qu'il va dire en fait. Quoi? Ça permet d'exister. Parce que chaque année, en fait, l'année, c'est une année agricole. L'année juive, c'est une année agricole. On commence, en fait, on commence l'année d'une certaine manière avec la moisson, mais on commence surtout quand l'année, elle finit quand on rentre tout à la maison. C'est Soukhot, c'est Rosh Hashanah, on a une année agricole. Et donc, quand à chacune de ces étapes-là, on reconnaît à Dieu, on permet à ce cycle de vivre. À cette année-là, on lui permet de vivre.
Non.
Alors, c'est plus par notre mérite que ça existe. Et si ça existe, en fait, c'est peut-être Dieu, il a un peu de miséricorde, ou parce qu'il y a des gens que quelque part, ils ont étudié Maaseret Challah, etc., etc. Mais s'il n'y avait aucun juif qui le ferait, on serait très embêté. S'il n'y avait aucun juif qui étudiait, et aucun juif qui faisait ces mitzvot-là, on serait très embêté. Donc, maintenant, pour reprendre le sujet, alors le Maharal, il dit comme ça. Il dit, Adam Arishon, il y a un Midrash Chachamim qui dit, Adam Arishon, Chala Teorai. L'homme, c'est une chala. Pourquoi? Parce que là, il y a eu deux choses qui ont été mélangées ensemble. Elyonim, Vetartonim. Il y a le monde physique, matériel et le spirituel qui se sont rencontrés. Et donc, c'est pour ça aussi que la femme, elle trempe sa issa avec de l'eau, elle mélange tout et après, elle prélève la chala. Et Dieu l'a fait comme ça. C'est numéro 3, c'est qu'en fait, on fait la pâte et l'homme aussi, c'est une pâte. Voilà. C'est la même chose. Si c'est collé. C'est l'homme, c'est mélangé. L'homme, c'est une seule chose. On n'est pas. On n'est pas. Non, voilà. Non, c'est la challah, parce qu'en fait, l'homme, c'est les deux. L'homme, celui qui dit à moi, c'est ma neshama. Ça n'existe pas. Moi, c'est tout moi. Voilà. C'est-à-dire que même dans le Ramchal, il dit qu'en fait, quand un homme il décède, alors il faut une shmira particulière. Il y a un état intermédiaire, la neshama, qu'on va la mettre quelque part, mais on va la mettre dans le Gan Eden pour la garder en attendant que le corps il puisse se reprendre une forme acceptable. Mais ce n'est pas un état naturel, la Neshama. Une fois qu'elle est intégrée à l'homme, c'est une seule chose. Et donc, avec Hachem, il a fait la même chose. D'abord, il y avait de l'eau qui a abreuvé la terre. Ça fait de la boue. Et une fois que cette eau. Il n'y a pas une prise quelque part. Il n'y a pas une prise quelque part. Juste une seconde. Il faut la. Peut-être qu'on la rallonge. Excusez-moi, il faut juste que je règle la problème de
batterie.
batterie. Ouais. Une seconde, hein. Je règle le problème de batterie. Je reviens tout de suite. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, dit-il, c'est encore la même chose, c'est qu'il y a l'eau qui a abreuvé la terre, et après Hachem, il a fait. Il a, et après Hachem, il a créé l'homme. D'abord, il y a une espèce de boue, ouais, comme la challah, comme la pâte, où il y a vraiment un mélange et une fusion, et après, on a créé l'homme. Donc, dit le Maharal, donc ici, on a mis au clair le fait que l'homme, Adam Harishon, qui est Kodesh l'Hachem, c'est le point de départ, c'est le début de ce qui est dans le monde inférieur. Et c'est comme la challah. Et c'est comme la challah. Et en fait, l'idée aussi, elle est comme ça, c'est que puisque le début, chaque fois qu'il y a un début, donc il y a un début isolé, c'est le bikurim, il y a un début du mélange, ça c'est le maaser, et il y a un début de la fusion, et ça c'est la challah. Et ces trois choses-là, qu'est-ce qu'on en fait? On les garde pas pour soi. On les rend à Dieu. Ouais. Donc d'après ça, puisque dans chacun de ces niveaux de création, le point de départ, il appartient à Dieu, c'est le chélek d'Hachem, ça appartient, c'est la part de Dieu. Donc en fait, et comme on a dit qu'en fait, le point de départ de chaque chose, c'est la totalité de la chose. Tout ce qui vient après, c'est juste pour compléter cette chose-là. Donc si le début du monde, il appartient à Dieu, et qu'en fait, tout le reste, il vient que accompagner, aider, compléter le réchit, donc tu sais qu'en fait tout appartient à Dieu. Donc toutes les modes de création, tous les modes, tous les olamot, qu'on parle du olam à Bria, qu'on parle du olam, donc de olam à Marshava, qu'on parle du dibour, du olam à dibour, ce qu'on appelle olam à Yetzira, et qu'on parle de la Asiya, le monde dans lequel on vit, le point de départ il appartient à Dieu. Le début, la première chose qui a été créée. Donc en fait, qu'est-ce qui s'avère? Que tout appartient à Dieu. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Parce que puisque Dieu il a créé le point de départ et que tout le reste, ça vient juste compléter, et qu'en fait, cette chose-là qui est le point de départ de la création, on le donne à Dieu. Et tu sais qu'en fait, le monde entier, il appartient à Dieu. Donc le monde entier, il mérite de vivre. Parce qu'en fait, puisque le point de départ, il appartient à Dieu, on le rend à Dieu. On le rend à Dieu, Kipchuto. Donc, tu sais qu'en fait, il y a rien d'autre dans le monde que ce qui n'appartient à Dieu. Donc, Dieu, il a créé un monde, il a créé un réchit, il a créé un point de départ qui devrait être complété après.
Ces trois actions, ce n'est pas comme une preuve que le monde appartient à Dieu, juste. C'est juste une
Non,
preuve. L'action, d'accord, mais
c'est
c'est la
plus
preuve.
qu'une preuve. C'est plus qu'une preuve. On est marzir. On est modé, c'est-à-dire quelque part. Il y a marqué, le Maharal, il parle ailleurs, que « Akol bidei shamaim, chutz meirat shamaim ». La irat shamaim, dit-il, c'est le fait de reconnaître, de se faire… Dieu, il nous a créés. Si Dieu, il crée l'homme, alors ça veut dire que l'homme, c'est quelqu'un d'autre que Dieu. Donc, l'homme, il est indépendant de Dieu. Mais ce n'est pas possible, en fait. C'est que Dieu, il crée l'homme. Donc, l'homme, il est indépendant. Mais si l'homme, il est indépendant, ben, on ne peut pas vivre sans Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est Yirei Shamaim, donc nous-mêmes, on vient reconnaître qu'en fait, on n'existe que grâce à Dieu. Donc, nous, on boucle la boucle. Dieu nous a créés, donc on est indépendant. Mais si on est indépendant, on ne peut pas vivre. Alors, c'est quoi la solution? Que Dieu, il me crée indépendant. Mais moi, je vais me rattacher à Dieu. Je dis, je n'existe que grâce à Dieu. Donc, Mitzad, Dieu qui m'a créé, il m'a créé indépendant. Ah, mais je ne peux pas exister sans Dieu. Oui, alors moi, je vais me rattacher à Dieu. Donc, c'est comme ça que je vis. Dieu m'a créé, il m'a dit, t'as le choix. Mais sache que si tu décides de pas de... T'as le choix. Je peux pas te forcer à me servir. Mais sache que si tu t'écartes de moi, tu ne pourras pas exister, mais tu as le choix. Alors moi, j'ai fait le choix, hein, d'appartenir à Dieu. Ça, c'est la hiératia. Et quand j'appartiens à Dieu, alors je peux vivre. Donc les deux problèmes, ils sont résolus. Dieu, il a créé l'homme. L'homme, il devient le serviteur de Dieu. Comme ça, il explique le Maharal. Ici aussi, Dieu, il crée le monde et l'homme, il lui rend le monde. La chala, les bikurim, les maasrot, c'est qu'on rend le monde. Ça, voilà. Voilà, ça. Mais pourquoi? C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est juste un jeu? Non, c'est pas un jeu. Oui, mais. Oui, on a. En, alors, il y a marqué que il y avait plusieurs générations jusqu'au matin de Torah, le monde y vivait Bechesed. C'est-à-dire qu'il y a eu jusqu'au matin de Torah ou jusqu'à Abraham, le monde il existait parce que Dieu il donnait la vie au monde, mais il ne méritait pas d'exister. Et après, on est rentré dans la notion de mérite. Donc, le monde il existe parce qu'il mérite d'exister, parce que les Juifs font les mitzvot. Mais si Chas Vechalila, ils arrêtaient tous de faire les mitzvot, alors le monde ne mériterait plus d'exister et voilà, il y aurait une dissolution automatique quelque part. Donc, ici aussi, Dieu, il crée le monde. Et s'il crée le monde, c'est autre chose que lui, caviar folle. Nous, on prend le monde, le icar du monde, l'essentiel du monde, c'est le point de départ, et on le rend à Dieu. Donc, c'est grâce à ça que le monde, il peut exister. Donc, en
Juste,
fait,
Rav,
oui.
les goïms, donc les goïms, eux, ils vivent à Pirchesed.
Alors déjà ça c'est un mon grand-père il disait comme ça mon grand-père il disait que c'est pas pour rien que les chrétiens ils parlent d'une religion de l'amour parce que fondamentalement quelque part ils vivent sous ce registre-là leur rapport à Dieu c'est un rapport de chesed. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'un goy qui amène un korban ou qui fait la tzedaka c'est un tzadik gamour mais s'il attend quelque chose en retour ça ne vaut rien. Pourquoi? Parce que lui, il y a soit le don, soit prendre. Il ne connaît pas la relation du mérite. Donc, quelque part, oui, le goy, parce que le rapport qu'il a avec Dieu, c'est que Dieu, c'est un Dieu qui lui donne gratos. Il n'a pas un rapport de mérite. Le mérite, il ne connaît pas. Le goy, il ne connaît pas le mérite. Comme ça, mon grand-père, Alav HaShalom, il disait. Et je pense qu'il y a beaucoup de justesse là-dedans. Donc, en tout cas, une fois qu'on a clarifié ça, on a clarifié qu'en fait, le monde, il est unique, il n'y a pas plein de choses dans le monde. Il y a un point de départ. Il y a un point de départ et ce point de départ, on peut le retrouver à chaque point de la création, à chaque niveau de la création. Et donc, le monde, en fait, il n'est pas multiple. Le monde, il est très unique. Le monde, il est absolument unique. Et donc, comme on a dit, Verotzelomar, regardez, je vais monter ça. Bisrut asher notnim el Hashem itbarach hareshit. Ouais. Alors, il dit. Grâce au fait qu'on donne à Dieu le Réchit. Pourquoi? Parce que le Réchit, il appartient à Dieu plus qu'autre chose. Pourquoi? Parce que le Réchit, le point de départ, il est unique. Et c'est ça que Dieu, il a créé. Et c'est pour ça et par ça que tout le reste a été créé, comme on a dit. Et puisque le point de départ, il est Kadosh à Hachem, et Hachem, il est un, et le Réchit, il est un, donc, en fin de compte, quand on parle de la création divine, elle est unique. Dieu, il a créé le réchit, et en fait, le réchit, c'est quelque chose qui lui appartient. C'est même pas une deuxième chose. Le réchit, il appartient à Dieu, donc ça lui échappe pas. Il n'y a pas Dieu et le monde. C'est pas qu'il y a Dieu et le monde. C'est parce que si tu as Dieu et le monde, alors tu as deux choses. Mais puisque il y a Dieu qui a créé le point de départ, ce qu'on appelle le réchit, et que le réchit, il appartient à Dieu, Dieu sait qu'il n'y a rien qui lui échappe. Ah, pourquoi est-ce qu'il y a plein de choses dans le monde? Parce que comme on a dit, le fait d'être créé, ça demande, ça nécessite qu'on soit complété. Dieu, il peut créer l'homme le plus parfait qui soit, mais le fait que l'homme il soit créé, ça veut dire que la vie ne lui appartient pas. Dieu, il peut me créer parfait. Il a créé Adam Harishon parfait, mais le fait que Adam Harishon il a été créé, ça veut dire que il ne vit pas par lui-même. Donc Dieu doit lui donner la vie. Donc Dieu doit compléter son existence. Pourquoi? Parce que si tu n'avais pas besoin qu'on complète ton existence, tu n'aurais pas besoin d'avoir été créé. Donc le fait que tu sois créé, ça prouve qu'en fait la vie elle t'est donnée. Donc chaque instant de ta vie, chaque chose que tu auras besoin pour vivre, il faudra qu'il soit rajouté. Dieu n'a besoin de personne. Il vit parce qu'il vit. Il est parce qu'il est, si on peut parler comme ça. Donc, Dieu, il a créé une seule chose et après, il faut qu'il lui donne la vie. Donc, du point de vue du créateur, il a créé une seule chose. Ce qui a été créé, Alors, du point de vue de ce qui a été créé, on va voir comme si on va rajouter des choses et encore des choses et encore des choses et encore des choses. Mais si on regarde, moi, quand je suis vivant, je vois pas chaque instant de vie comme une nouvelle chose. Mais c'est Dieu me donne la vie. Si Dieu est là, voilà, Dieu me donne la vie chaque jour. Elokai, Neshama, Shenatabit, Orai, etc. Tous les jours, Dieu me la rend. Mais quelque part, en fin de compte, en vérité, c'est une seule vie. Donc, on a cette dualité-là. Dieu, il a créé un seul monde, mais en fait, il doit lui donner la vie tous les jours. Mais c'est un seul monde. Mais à notre niveau, on comprend. Quand je suis vivant, il n'y a pas 10 000 vies, j'en ai une seule. Mais en fait, Dieu, il a besoin de me donner la vie constamment. Mais c'est une seule chose, c'est pas plein de choses. Donc en fait, le monde aussi, c'est la même chose. Dieu, il a créé Israël, et ce Israël, il faut lui donner la vie. Et comment est-ce qu'on lui donne la vie? Ouais, c'est en lui donnant à boire, en lui donnant à manger. Il faut qu'il ait un pays, il faut qu'il ait des ennemis, il faut qu'il ait des alliés. Et donc tout le reste, en fait, c'est Dieu qui donne la vie à cette chose unique. Mais c'est pas autre chose. Ouais. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on a compris que Bereshit bara Elohim, Bishvil Reshit, par le Reshit, pour le Reshit, alors il a créé. Comment est-ce qu'on a tout le monde entier? Parce que Dieu, il a créé le Reshit. Par le Reshit, Dieu, il a créé le monde entier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était ça le fin fond, le fin mot de la Bria, c'est le Reshit. Ouais. Et tout le reste, c'est juste que le monde, en fait, il faut le renforcer tous les jours. Le monde, il faut le consolider. Ouais. D'accord. Alors, si on réfléchit avant même d'avancer, on avait demandé pourquoi est-ce que la Trouma, elle n'en fait pas partie. Parce que la Trouma, elle ne correspond pas à un niveau de réalité particulier. La Trouma, c'est vrai qu'on la donne au début, on la donne en premier, donc pour ça, c'est Réchit. Mais elle ne correspond pas à un niveau de réalité particulier. Donc, c'est pour ça que la Trouma, on ne l'a pas comptée. Mais ça, le Maharal, il va développer au fur et à mesure. On avance un peu dans les mots du Maharal, si ça ne vous dérange pas. Omnam, de fait, ces trois mitzvot, Challah, Maaser et Bikurim, il faut rajouter encore quelque chose de particulier. Yeshod Beinyanam, ou Besodam, Amoufla, Vaneelam, Dvarim, Ouflaim. Quand le Maharal, il dit comme ça, il dit que ce qu'il nous dit, en fait, c'est vraiment la surface. C'est qu'en fait, il y a des niveaux et des niveaux et des niveaux de secrets qu'on pourrait analyser, développer. Encore une fois, il faut se rappeler que le Maharal, il développe dans un langage commun des idées de Kabbalah qui sont extrêmement profondes. Donc il nous dit, regardez, vous lisez le Maharal, vous lisez Netzach Israël, c'est plaisant, mais comprenez bien qu'ici, il y a des choses qui sont mouflaïm, qui dépassent tout entendement. Et c'est quoi? C'est que la première mitzvah, c'est mitzvah Bikurim. Ouais, c'est quoi? C'est le point de départ, c'est le moment où Dieu, il le fait sortir d'un potentiel à une réalité. On a une graine, on a un bourgeon, pardon, on a un bourgeon, disons qu'on a un bourgeon. Le bourgeon, c'est pas encore la réalisation d'un potentiel, c'est un potentiel qui est en train de se réaliser. Le Bikurim, il agit quand cette chose-là, elle se réalise. Le moment du Bikurim, c'est dès qu'elle a mûri. C'est quoi? C'est le moment de la réalisation. Donc là, on a Dieu qui réalise quelque chose. On avait un grain, on a un grain, on a un bourgeon, et ce bourgeon, c'est un potentiel, il va se réaliser. Ouais. Comme on a dit. Mais Maaser, c'est du point de vue de, pas du créateur. Maaser, c'est du point de vue de l'homme. Pourquoi? C'est mitzad, pas mitzad l'homme, mais mitzad ce qui est créé. Pourquoi? Parce que quand le fruit il a commencé à mûrir, ouais, quand le fruit il a commencé, il n'est pas complètement mûr, mais il a commencé à mûrir, il a éclos. Ouais, il a éclos. Donc là, c'est le moment où Dieu il a créé. C'est le moment où on peut dire, on peut montrer du doigt, Dieu il a créé ça. Ouais. Mais ce n'est pas encore indépendant. Le Maaser, c'est un deuxième moment. C'est quand en fait, le grain de blé, il est complètement fini. Il est réalisé. Et il est tout seul. Il se tient. Il n'a plus besoin de travail. Les Bikurim, il y a encore besoin de plein de travail avant d'avoir quelque chose qui n'a plus besoin de travail. La fin du travail, la Gemara, elle appelle ça Gemar Melarto le Maaser. Ouais, le miroir, c'est Gemar Melarto. C'est que maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai du grain. Tant que je ne l'ai pas mis en tas, je n'ai pas de grain. Je n'ai pas de la récolte, je n'ai pas du grain. J'ai des grains, mais je n'ai pas du grain. Ça, c'est le moment, en fait, le grain, il est complètement réalisé. C'est-à-dire qu'il y a, d'un point de vue, On parle le potentiel, le bourgeon, et on a le fruit. Et on a un deuxième moment où en fait, il n'y a plus besoin de rien. Et une troisième étape, donc il y a du point de vue, la réalisation du point de vue du créateur, que le créateur, il a fait son travail en quelque sorte, qu'il a pris un bourgeon, il a pris un potentiel, et il a été motzi oto minako achel hapoal, ça s'est réalisé. Il y a un deuxième moment, c'est quand le fruit, il n'a plus besoin de rien, on l'a mis en tas, ça y est, c'est fini. Et un troisième moment, c'est quand on prend tout plein de choses et qu'on les rassemble ensemble. Ouais. Et chacun de ces choses-là, c'est un moment premier, comme on a dit. C'est un moment premier. Et donc, et c'est ça qu'on donne à Hachem. Et donc, en fait, comme on a dit, c'est-à-dire que chaque mode de création, chaque moment de la création, il y a quelque chose de nouveau. Chaque moment, chaque chose de la création, elle a quelque chose de particulier, elle a un point de départ, elle a une raison d'être. À chaque chose qui existe dans le monde, il y a plein de choses. Mais en fait, toutes ces choses-là, elles existent parce que Dieu, il a mis quelque chose. Il a mis quelque chose dans le monde. Rav Dessler, il développe l'idée que l'histoire, elle se déroule, qu'il y a un petit changement qui va faire des bouleversements. Il y a un petit événement qui va faire des bouleversements sans fin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, il a introduit quelque chose de nouveau, une idée nouvelle dans le monde, un besoin nouveau, une bria chadasha dans le monde. Et cette chose-là, elle va éclore. Et quand ça éclot, il va se passer plein de choses. Mais en fait, tout ça, c'est juste des moyens, c'est juste des outils, c'est juste des corollaires, des dommages collatéraux, des fois, pour que cette chose-là, elle s'accomplisse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu tout le bouleversement de la vie intérieure. Tout ça, avec la psychologie, Freud et Jung, et là, tout ça, tout ce que ça a changé dans le monde, tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y avait un émet qu'il rentre dans le monde, et après qui nous a été dévoilé par l'émet du Moussard. Mais tout le reste, tous les bouleversements qui ont été faits par cette idée qu'en fait on avait une vie intérieure qui ne nous était pas connue, c'était juste, il y avait un petit émet qu'il fallait qu'il soit dévoilé. Et à cause de ça, ça a changé tout le monde.
Toujours des bouleversements,
C'est
parce que
toujours, mais les bouleversements, en fait, ils sont grands, mais en fait, au centre de ce bouleversement, il y a une réalité. Et cette réalité, c'est, en fait, nous, on l'aperçoit qu'à la fin. Mais en fait, elle était là depuis le début. C'est ça qui était introduit dans le monde. Mais pour qu'elle se réalise, ça demandait plein de moyens et plein de bouleversements.
c'est la cravate d'avoir un bouleversement, parce que les blés, on va les écraser, on
Et
va les
oui.
défoncer, et
En
après,
fait, oui.
objet pour quelque chose d'autre qui va être la canne.
Et donc, en fait, pour reprendre, c'est juste. Donc, pour reprendre, donc en fait, toutes ces choses-là, dès qu'on reconnaît un réchi, dès qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de nouveau là dans le monde, il y a quelque chose qu'il n'y avait pas avant, cette chose-là, on la prend et on la rend à Dieu. On la rend à Dieu. On la ramène à Dieu. Et donc, en fait, tu sais que le monde entier, tout ce qu'il y a de nouveau, il appartient à Dieu. Encore une fois, c'est-à-dire que dès qu'on entend quelque chose de nouveau, dès qu'il y a un chidouche dans le monde, faut toujours essayer de le ramener à Dieu, que ce soit au niveau de l'idée, soit au niveau des actions, faut toujours trouver là-dedans, c'est quoi le Hémet, c'est quoi le Réchit, qu'est-ce qu'il y a de Kadosh là-dedans? Et il faut le ramener à Hachem. Et comme ça, on justifie l'existence de cette chose-là. C'est-à-dire que c'est ça, cette idée que tout ce qui est créé, il y a toujours au centre, il y a quelque chose de Hémet, et tout le reste, c'est juste des conséquences de cette réalité qui a été introduite dans le monde. Tout le reste, c'est juste, c'est du bruit, en fait. C'est du bruit où c'est nécessaire, mais c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Il va y avoir des bouleversements phénoménaux juste pour que Rabbi Israël il dise quelques mots. Le monde entier, la manière de penser du monde entier, elle va être bouleversée pour que Rabbi Israël il fasse une sicha. Et quand Rabbi Israël il retrouve ces idées-là de l'inconscient et du travail du Yetzer, etc., alors en fait, il a justifié tout le changement qu'il y avait dans le monde.
Comme si qu'il apporte un crédit à ce qui s'est passé
C'est qui
avec les
dit?
penseurs.
Non, ce que je dis, c'est que le monde en tout ça, ça a été fait pour cette chose-là. Tout ce que les gens, ils sont pris la tête, voilà, et la conscience, et le truc, et les criminels, etc., etc., etc. Tout ça, c'était pour une chose. C'était pour que Rav Israël. Et après tout ce que ça continue aujourd'hui, qu'il y a des psychologues et des psychologues comme ci, et des écoles comme ci, et des écoles comme ça c'est juste la suite. C'est la suite parce que c'est la suite. Une fois que quelque chose est dans le monde, il est dans le monde. Et puisque le moussard, il continue à exister, alors le reste aussi, il continue à exister, mais c'est agave. Et c'est ça qu'il faut toujours, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, il faut toujours retrouver la nekoudat à émettre. C'est très important, ça, c'est une idée. C'est une idée. Et des fois, on a des. Moi, je vous dire, par exemple, dans les grands événements, moi, j'ai beaucoup de mal. Parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de remue-ménage. Voilà, il y a des. Il y a des. Quand il y a des rabbanim qui viennent en France, il y a des sioumim, il y a beaucoup de remue-ménage, il y a beaucoup de bruit. Et en fait, il faut toujours essayer de retrouver là-dedans, c'est quoi la nekoudat à émettre.
Très bien, je pense ça va.
Il faut trouver ce qui nous parle. Mais il faut trouver en fait c'est quoi le point de départ de tout ça. Pourquoi est-ce que Hachem il a fait ça? D'accord. Donc en fait, voilà, c'est juste cette nekoudat qu'en fait, tout dans le monde, il a un réchit, il a un point de départ et il a une nekoudat à émettre. Et cette nekoudat à émettre, c'est le réchit, c'est la raison d'être, c'est ce que Dieu il a vraiment fait. Tout le reste, c'est des conséquences. Tout le reste, c'est ce qui est nécessaire, tout ce qui va avec. Mais il faut retrouver cette chose-là que Dieu il a créée. Cette chose-là, il faut la trouver, il faut la trouver et il faut faire comme la challah, que puisque c'est kadosh, il faut la ramener à Dieu. Il faut la ramener à Dieu, comme la challah, comme le maaser. Et donc, en fait, une fois qu'on a vu ça, alors, dans le shiur précédent, on avait demandé comment ça se fait que les juifs, ils font avodah zarah. On avait demandé comment ça se fait que les juifs, ils font avodah zarah. Les juifs, ils font des averot et la avera préférée des juifs, c'était avodah zarah. Comment ça se fait? Pourquoi avodah zarah plus qu'une autre? Alors, Ravashi, il pensait que tout ce long développement intellectuel qu'on a fait, qu'en fait, dans le monde, il n'y a qu'une seule chose qui existe, et que tout le reste, c'est juste des rajouts qu'on fait pour le maintenir, la création en vie. Et comme on a dit que moi, je ne vois pas ma vie comme plein de vie, même que Dieu doit me donner la vie tous les jours, mais j'ai une vie. Donc, de la même manière, le monde, il a une vie, mais on nous rajoute tous les jours. Ouais. Et ça, il pensait. Donc, ça, c'est la. Donc, comment est-ce qu'il y a plein de choses dans le monde? La réponse, c'est qu'il n'y a pas plein de choses. Il y a une seule chose. Il y a le Réchit. Et mais il pensait que Ravashi, il pensait que les gens qui faisaient la Avodah Zarah, ils n'avaient pas compris cette pensée profonde-là. Ils pensaient qu'ils étaient trompés, qu'ils pensaient qu'en fait, dans le monde, il y avait plein de choses. Et qu'ils faisaient la Avodah Zarah parce qu'ils n'avaient pas compris l'idée, le principe du Réchit. Voilà. Non, mais lui, il pensait que ce n'est pas une idée de difficulté, il pensait que c'était une erreur. C'est qu'en fait, quand on va dans le monde et qu'on voit les nouvelles et qu'on est désorienté, qu'on dit il est où Hachem et qu'on ne le trouve pas, quelque part, on fait l'erreur des Avodah Zarah. C'est ça que Ravashi disait. Qu'en fait, ça venait d'une erreur que j'ouvre le journal et je sors et je suis complètement désorienté. Et en français, on dit on ne sait plus à quel saint se vouer. Ouais. On a tout va dans tous les sens. Et on dit mais il est où Dieu dans tout ça? Dieu, il est unique. C'est où? C'est quoi le point central de tout ce qui se passe? Et on ne trouve pas. Et donc, ça, c'est la Avodah Zarah. Et Ravashi, il pensait que quand les gens ils faisaient Avodah Zarah, c'est parce qu'ils ne trouvaient pas le centre, ils ne trouvaient pas ce qu'on appelait le Réchit, la Nekoudat HaEmet qui est dans la Bria. Et donc, c'est pour ça que Ravashi, il a dit Ménaché, c'est notre ami. Et il n'est pas très intelligent, Ménaché. Moi, je comprends des choses, je comprends des idées que Ménaché, il ne comprenait pas. Et Ménaché, lui a dit non. Ménaché a dit, tu trompes complètement, ne crois pas que moi je suis ton copain. On est très supérieur, dit Ménaché à toi. Ce que tu sais, on le savait pertinemment. Et je vais te le prouver. Et non seulement on le savait pertinemment, mais on le sait encore mieux que toi. Pourquoi? Parce que Ravashi dit, d'où est-ce qu'on casse le pain? Et Ravashi ne dit pas. Et Ménaché lui dit, on casse le pain à l'endroit où la croûte, elle commence à se former. Ouais. Pourquoi? Parce que d'où est-ce qu'on fait la bracha? La bracha, c'est à Motzi Lechem min Haaretz. Dieu, il crée le pain. Et le pain, il a un point de départ. C'est quoi le point de départ? C'est l'endroit où la croûte, elle a commencé à se former. Le pain, c'est sans croûte, il n'y a pas de pain. Donc la croûte, c'est le début du pain. Et c'est là-dessus qu'on fait la bracha. Sur le début du pain, là où la croûte, elle a commencé à se former, on fait le début du pain. Pourquoi? Parce que le début du pain, là-dessus, on fait la bracha. Parce qu'encore une fois, comme on a dit, que Dieu écrit, il y a toujours un début, et que c'est ça l'essentiel de la bria, et c'est là-dessus, c'est ça qu'on rend à Dieu grâce à la bracha. Et c'est pour ça qu'on fait Motzi Lechem min Haaretz. Donc il a prouvé à Ravashi que l'idée de Réchit qu'on a développée difficilement, il la connaissait à tel point de pouvoir la concrétiser dans une miche de pain. Moi, je vois du pain, je vois un pain, et je me demande si c'est un pain de campagne, une baguette. Non, non. Lui, il voyait le Réchit dans le pain. C'est pas une idée. Il savait le concrétiser. Ouais. Alors, À ce moment-là, on a une question, mais si tu connais la réalité du monde à tel point que quand tu vois une baguette, tu vois un pain de campagne, tu sais reconnaître l'idée maîtresse de la création dedans et tu fais la Avodah Zarah. Mais alors là, on est en face d'un très grand mystère. Comment ça se fait que vous faisiez la Avodah Zarah? Puisque vous savez qu'il y a un seul créateur, comment vous servez plein de dieux? Ouais. Alors Ménaché lui a dit, si tu étais là-bas, tu aurais servi plus que nous. Parce que comme on t'a montré, toi, quelque part, c'est des idées. Mais dans la réalité, on te donne un pain. Et il est où le réchit dans le pain? Tu ne le connais pas. Donc toi, non seulement tu aurais fait la Avodah Zarah, mais tu aurais relevé les pans de ton manteau pour courir derrière. Ouais. Parce qu'en fait, toi, quelque part, dans ton action, tu connais pas la réponse. Tu connais la réponse intellectuellement. Mais dans ta réalité, toi, Ravachi, tu connais pas la réponse dans tes actions. Donc peut-être que dans ta tête, tu sais que la Avodah Zarah, c'est rien, mais tes pieds, ils vont courir. Ouais. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'ils faisaient le Yetzer? Pourquoi est-ce qu'on faisait la Avodah Zarah? Pas parce qu'il y a une erreur, mais parce qu'il y a un Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extérieur à nous qui vient nous attaquer. Pardon. Juste, je vais faire une seconde. Ouais. Ouais. Donc il y a quelque chose qui vient nous attaquer. Et c'est ça qui va nous pousser au Yetzer Hara. Et ça, Bezrat Hashem, on développera le jour suivant, Bezrat Hashem. Voilà. Des questions? Non, c'est bon?
Non, c'est bon.
Très bien.
Avec
Jazakumarouf, merci beaucoup.
plaisir, Colto. Semaine prochaine, Bezrat Hashem.
Salut.
Mais c'est pas une erreur, c'est qu'il a, il a, il est tombé, il est tombé. Mais c'est pas une erreur, c'est une faute, c'est un crime, c'est un péché. C'est pas une erreur. Oui, il a pas fait d'erreur. Il savait pertinemment que ce qu'il faisait n'était pas bien. Mais le Yetzer Hara était trop fort. Donc c'est pas une erreur. Ouais. Oui. Mais jusqu'à dans le pain, quand il voyait tout le malheur de la bria dans une miche de pain. Il savait faire la bracha dessus. Ça, voilà. Le tzara, c'est pas kol ha'gadol mechavero, yitzro gadol emenu. Et c'est ça qu'on va. Ouais. Yoni, tu voulais dire quelque chose?
Non, c'est bon. Écoutez,
D'accord.
je serai
Voilà.
plus performant la prochaine fois parce qu'à distance, c'est un peu difficile.
D'accord. Allez, Khazak, Colto.
Allez, reste là. Reste là.